Rock Body Good Radio, pour voir Roche Corbon à travers les oreilles de Saint-Coin. Rock Body Good Radio, suite de la visite par la rue du docteur Le Bled.
Alors, la place de la mairie, est-ce qu'on fait un petit tour sur la place de la mairie? Ah oui, il y a toute chose amusante d'ici. Ah, cette mairie qui va être faite, qui va être construite à la fin des années 1830. Donc jusque-là, les maires, surtout s'il est dans les petites communes, hein, il n'y a pas de mairie. Donc ils louaient une pièce. Ils louaient une pièce pour la mairie. Alors simplement, ils ont été très très vite débordés par la masse de papier qu'ils avaient. Alors, pas leur production eux-mêmes, parce que les registres de délibération, on voit, ils ne sont pas très épais. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Mais surtout, par toute la littérature, tous les lois, les guides des maires des communes, etc., etc., qui doivent stocker. Donc, ils louent une petite pièce, puis après, ils en louent une plus grande, et puis après, ils louent deux pièces. Et puis, ce qui va se passer à la fin des années 1830, c'est que la loi change concernant les écoles. Et notamment, elle impose aux mairies de loger les instituteurs. Et donc, ici à Roche-Corbon, ils vont décider de construire un bâtiment, parce que sinon, il n'y avait pas de ressources dans la commune. Donc, ils vont décider de construire un bâtiment, et à la fois le logement des instituteurs, et à la fois l'école. Et donc, ici, ils vont profiter. Ici, la mairie, c'était une ferme, c'était une grande ferme, dont toutes les étables étaient troglodytiques sur le côté. Il y avait une grange ici à la place du bureau de poste. Et donc, ils vont construire ce logement et ils disent, bah, tiens, tant qu'à faire à construire un bâtiment pour les instituteurs, si dedans on pouvait aménager quelques pièces pour la mairie, ça éviterait les coûts de location tous les ans. Et donc, finalement, ils vont se résoudre à effectivement construire ce qu'on appelle aujourd'hui la mairie, mais donc qui, à l'origine, était essentiellement les logements pour les instituteurs. Donc à gauche, c'était les instituteurs, c'était les garçons. À droite, c'était les filles. Donc l'étage... alors le bâtiment était moins long, moins profond là qu'on ne le voit aujourd'hui. Mais donc à l'étage, c'était les logements. En bas, c'était leur salle, les salles à manger, etc. Et puis devant, il y avait effectivement... à gauche, c'était le bureau du maire. Au milieu, la petite salle de réunion, et puis à droite, un secrétariat. Puis ensuite, ils vont les inverser, secrétariat et maire. Je ne sais pas, ils ne devaient pas être d'accord. Mais donc, ils n'avaient que trois pièces, mais ils avaient à peu près zéro employé, quoi, à part le garde champêtre, qui, lui, logeait dans une cave troglodytique derrière. Sinon, il y avait très peu de personnel. Donc, c'était suffisant pour l'époque. Maintenant, quand on voit le nombre de personnel qu'il peut y avoir dans une mairie, on comprend que derrière le bâtiment, bah, après, ils l'ont occupé totalement, puisqu'il y avait une alternative, c'est que les instituteurs, soit on leur donnait un logement, soit on leur donnait une indemnité logement. Et ils se débrouillaient par eux-mêmes. Donc après, c'était la solution qui a été trouvée, mais bien plus tardivement. Hein. On est déjà au 20e. Et donc la mairie, après, va occuper tout le bâtiment, qui ne va pas suffire, après ils vont l'étendre derrière, et puis, voilà. Et puis c'est dans les années 1860 que va se poser la question, à l'époque, de l'arrivée du télégraphe. Donc c'était bien avant le téléphone, et le télégraphe qui arrive jusqu'à Vouvray, et Roche-Corbon va se battre pour essayer d'être accordé sur cette ligne-là, va l'obtenir, et à partir du moment où il crée le télégraphe, il crée un bureau de poste. Donc ils vont créer un bureau de poste, mais ça va se faire dans la rue des Basses-Rivières. Mais dans les rues des Basses-Rivières, il y a un petit souci, c'est que le local est assez humide et que le télégraphe, qui est un appareil à l'époque très sensible, entièrement métallique, etc., s'oxydait, se déréglait, etc. Donc ça plaisait pas trop. Et puis de toute façon, le propriétaire qui louait la maison n'était plus d'accord, il voulait plus la louer. Donc finalement, il fallait bien qu'il trouve une autre solution. Donc ils vont venir, donc la mairie qui avait été construite à la fin des années 1830, et puis cette fois-ci, donc, le bureau de poste va être construit sur l'emplacement d'une ancienne grange qui ne servait pas à grand-chose. Ils stockaient la pompe des pompiers. Et donc, on va construire le bureau de poste qui fait la moitié du bâtiment actuel, qui était le bureau de poste et télégraphe, PET, qu'on a connue. Et après, derrière, il va s'élargir. Là, cette fois-ci, c'est quand le téléphone va arriver. Mais là, on va être très nettement après-guerre. Et là, ils vont construire un petit bâtiment des télécoms d'à côté. Donc, ce sera vraiment des PTT, là, cette fois-ci. Ça a été les PET, les PTT. Et puis voilà, puis ce petit bureau de poste, bah, ici, il n'y a pas un volume suffisant pour son fonctionnement. Donc, il va être fermé. Il a été fermé récemment. Et c'est le bureau de tabac qui fait maintenant office de bureau de poste. On a toujours les petits escaliers à l'extérieur là, pour éviter les passages dans la maison. On trouve ça partout, on va trouver un peu près. Ah oui, alors il y avait un petit truc amusant ici sur sur la mairie de Rochecorbon, c'est qu'on voit sur la façade, donc on a à gauche et à droite, on a ces frontons triangulaires. Mais au milieu, donc, ils ont fait des fenêtres avec le haut arrondi. Et quand ils vont faire l'école derrière, et on la voit l'école derrière, ils vont faire aussi les mêmes fenêtres arrondies, mais qui coûtent très cher. Alors les fenêtres qui sont de l'école, qui sont derrière la mairie, qu'on ne voit pas, ben, ils vont faire des fenêtres simples, carrées. Ça coûte un peu moins cher. Donc on les verra quand on... Donc on retrouve les mêmes fenêtres que la mairie, sur les parties extrême gauche et extrême droite de l'école, enfin, on le voit bien. Et puis dès qu'on se décale, on se voit que les fenêtres là, qui sont derrière la mairie, qui n'étaient pas visibles d'ici, c'est des fenêtres simples. Au départ, il y avait deux salles de classe. Hein. Une salle pour les garçons, une salle pour les filles. Donc toujours découpé de la même façon, hein. Vraiment le bâtiment coupé en deux. Que ce soit le bâtiment devant, qui était les logements, ou le bâtiment derrière l'école, c'était coupé en deux. D'ailleurs, il y avait un mur qui séparait la cour en deux. On ne mélangeait pas garçons et filles. Et puis c'est à la fin du 19e siècle, cette fois-ci, on va avoir besoin des écoles maternelles. On va commencer à créer des classes maternelles. Ce n'est pas obligatoire, mais ici, ils vont vouloir les créer. Et donc, ils vont utiliser ce qui était des préaux avant, sur les côtés. Ils vont les utiliser cette fois-ci en salle de classe. Donc, on va déjà avoir 4 salles de classe. Mais bon, après, au 20e siècle, c'est très insuffisant. Vu l'augmentation de la population, même si Rochecorbon n'a pas beaucoup augmenté, hein, sa population. Voilà, toutes les villes qui touchent la ville de Tours ont vu leur population multipliée par 10 au cours du 20e siècle. Rochecorbon n'a été multiplié que par 2, mais néanmoins a été multiplié par 2. Donc on a beaucoup plus de jeunes, et puis maintenant tout le monde va à l'école. Dans les années 1850-80, tous les gamins n'allaient pas à l'école. D'ailleurs, les parents payaient l'instituteur. L'instituteur n'avait pas de salaire. Il était payé par les parents qui plaçaient des enfants dans l'école. Donc, quand il y avait les vendanges, quand il y avait les travaux dans les champs, etc., bah, les gamins, ils n'y allaient pas. Ils n'allaient pas à l'école. Donc, les parents ne payaient pas. Vous voyez, la rémunération des instituteurs à l'époque était très, très variable. Donc on est ici là, dans la rue du docteur Leblé. Donc c'était à l'époque, son nom c'était bien Leblé, avec l'orthographe ancienne française B-L-E-D. Là on mettait un D à la fin pour savoir que c'était un E, comme le pied. Voilà, donc à l'époque c'était Leblé. Et puis bah, après avec la guerre d'Algérie et autres, le nom Bled, le Bled algérien va s'imposer. Et donc la rue va s'appeler la rue Pierre Lebled. Alors que l'origine allemande, c'était bien le blé. D'ailleurs, sur les cartes postales anciennes, certaines sont écrites « le blé et accent aigu voilà. ». Donc, la première maison, c'est le presbytère. Donc, était le bâtiment qui était le plus proche de l'église à l'époque. Hein, puisque derrière, c'était une ferme. Là, maintenant, où il y a la mairie, c'était une ferme. En dessous, il n'y avait aucune construction. Donc, le bâtiment le plus proche de l'église, c'était celui-ci. Donc, ils avaient construit... aménager le presbytère ici, qui est ce bâtiment, donc, qui est perpendiculaire au coteau. On ne bouge pas les caves, parce que derrière, il y a pas mal de caves, là, on ne voit rien, parce que maintenant, il y a des murs. Donc, mais c'était bien, voilà, sous cette disposition qu'on va retrouver après dans la rue, toutes ces maisons perpendiculaires, les anciennes, toutes les maisons anciennes sont perpendiculaires. Le presbytère, d'ailleurs, qui servira juste après la Révolution française, quand pendant quelques temps l'église va être fermée, il n'y aura plus de messe, donc il n'y a plus besoin de curé, le presbytère va être libre et donc la mairie va s'installer dedans. Et là, la préfecture va dire non, le bâtiment est quand même trop beau pour la mairie ça doit être humble, hein, c'est fini, hein, les privilèges, etc. Donc, non, vous allez trouver une autre pièce et puis le bâtiment est récupéré. Bonjour, monsieur l'adjoint. Monsieur l'adjoint au maire. Un premier adjoint au maire intéressé par l'histoire de la commune. Pas tous, tous ne sont pas.
En descendant la rue de Bled, nous rencontrons Jean-Pierre Rio, premier adjoint.
Ici, la maison là, donc c'était une maison perpendiculaire au coteau comme toutes les maisons. Donc jusqu'à très tardivement, hein, jusqu'à 1900, et ensuite, cette extension a été construite. Dans un premier temps, cette extension, il y avait une porte cochère. On rentrait, puis il y avait un mur plat. Et c'est après qu'ils ont ouvert et qu'ils ont ils ont placé une grille. Donc c'est pour ça que le paysage s'est un petit peu transformé. Mais sinon, si on se recule quelques années en arrière, on a bien ces maisons construites perpendiculairement au coteau et à la rue pour ne pas boucher les entrées des caves qui étaient derrière.
C'est la même chose au Grand Boudon, peut-être pas, parce que...
Si, c'est pareil.
Il y a une aile aussi comme ça.
Oui, pareil. Toutes, d'ailleurs, en fait, toutes, originellement, elles étaient toutes comme ça.
Ah oui,
toutes. Quand on regarde le cadastre napoléonien, toutes les maisons sont perpendiculaires. Ouais, celle-là aussi, qui est la partie.
Là, on a un passage souterrain de la tour, on sort là.
Alors ça, on en a parlé de l'autre côté. Donc, puisqu'on a une vallée qui est asymétrique, la baignoire est là-bas. Elle est au pied du coteau là-bas. Donc ici vont s'installer les gens aisés parce qu'ils vont pouvoir acheter les terrains qui sont devant chez eux et les terrains qui sont derrière aussi. Donc derrière ils ont des terrains et qui à partir du 18e c'est surtout planté en vignes. Donc ils vont avoir les vignes derrière et puis, par contre devant ils ont les jardins, jardins vivriers qui vont servir à nourrir la famille. On va même trouver un petit peu après, ils ont même un petit bassin qui permet d'avoir des poissons. Voilà, donc c'était très vivrier, mais il y avait besoin d'espace par rapport à ces propriétaires. Alors que ceux qui sont de l'autre côté, avec la pique de la Béloire, ils n'ont pas de terrain, donc c'était la population la plus pauvre, la plus humble qui était installée. Les riches propriétaires étaient là et avaient tous ces propriétés en lanière comme ça qui traversaient. Et ici, on retrouve bien, donc, alors, je ne sais pas là-bas si on le verra, mais on a bien ici le coteau qui a été creusé. Et toute la terre, tous les rochers qui étaient déblayés de ce coteau ont été mis ici, retenus par un mur, et qui va servir à faire la rue. Et donc la rue ici, là, ici, ça, c'est rien que du remblai. Ça. Et alors donc cette propriété, la première Villa Bassompierre, donc qui jusqu'en 1900 s'appelle Charlie. Et le propriétaire qui possède Charlie déménage en 1900 et emmène le nom de sa maison, et va l'emmener dans sa nouvelle maison, qui va baptiser Charlie. Donc là, la maison aussi n'a plus de nom. Donc c'est le propriétaire, Madame Bassompierre, qui va l'appeler Villa Bassompierre. Donc c'est un nom récent. Et ici on peut voir, alors si on va là dans à la grille, mais ils aiment pourquoi ? Voilà, sur là à droite, avant dans la cour, là, avant le bâtiment, on voit il y a un petit parapet là, grillagé là, enfin qui est métal, justement qui protège un escalier qui passe sous la route et qui permet d'aller à la propriété. Alors il y en avait plusieurs ici, mais je crois que ça doit être la seule qui maintenant reste. Donc là on voit bien... Alors ça c'est une construction moderne, ça, qui a été construite, puisque ici c'était une épicerie, le bâtiment là, Beau Séjour. Avant c'était avant la guerre, c'était la dernière guerre, c'était une épicerie. Ça va se transformer en auberge. Donc les salles de restaurant sont troglodytiques derrière. Et par contre, ils vont vouloir créer un petit bistrot, mais comme ils n'ont pas la place parce que ça faisait hôtel, donc ils vont construire ici ce petit bâtiment moche. On se demande qu'est-ce que c'est que cette verrue. Mais en fait, en bas, c'était le bistrot, avec une petite pièce au-dessus. Voilà. Donc, Beau Séjour. Alors, Beau Séjour, j'avais appris que Brigitte Fosset y venait quand elle était jeune, au moment de son film... dont j'ai perdu le nom d'ailleurs. Je vous interdis. Donc elle venait ici régulièrement et je lui écris pour lui demander si elle avait des souvenirs. Elle m'a fait une réponse très longue en m'expliquant tous ses souvenirs. Elle se souvenait qu'elle allait faire des cours de latin chez le curé, qu'elle allait faire des cours de maths à Vauvert, qu'il n'y avait pas d'eau chaude à l'étage et que donc tous les matins. L'aubergiste montait un broc d'eau chaude pour pouvoir faire la toilette, etc. Donc elle avait fait une réponse très sympathique, donc que j'ai gardée, c'est amusante. Petit témoignage de Roche-Corbeau. Voilà, là on arrive là, sur ce petit parking là. En face on a un bâtiment. Et un peu particulier, voilà, parce que là on arrive à la limite. Alors, la vallée de Rochecorbon, à l'origine, donc le premier texte du 9e siècle qui parle de la vallée de Rochecorbon, dit que cette vallée appartient à l'église. Enfin, là, elle appartenait à l'archevêque et l'archevêque la donne à l'église de Tours. Donc cet acte, on n'a pas l'original, il y a une copie qui a été faite, qui est perdue aussi. Ça a été confirmé par un premier roi, c'est perdu aussi. Ça a été confirmé par un deuxième roi, parce qu'à l'époque, on voit bien, il y a beau y avoir un texte, c'est écrit. On pouvait très facilement remettre ça en cause. Donc c'est reconfirmé. Donc on confirme que la vallée donc Vodanum, à l'époque, appartient à donc, l'église de Tours. Et ce qu'on a vu par contre à l'entrée de Rochecorbon, c'est qu'à l'entrée de Rochecorbon, il y a le seigneur de Rochecorbon qui s'installe, lui, alors un peu plus tard, donc à la fin du Xe siècle, qui va s'installer. Donc, il va falloir faire la limite entre les deux propriétés, entre les deux domaines, hein, domaines d'influence. Et donc, il va y avoir de nombreux procès, il va y avoir ce qu'on appelle des combats de fief. Donc on se bat en disant, non, telle maison, elle dépend de chez moi, et pas, etc. Donc en gros, la situation qui s'est établie progressivement, c'est que là, à partir de cette maison-là, ici, donc de cette maison en haut qui s'appelle Le Crochet, donc là se trouvent les domaines de l'église, et avant, en direction de la Loire, c'est les domaines du Seigneur. Donc là, on va passer deux domaines de l'église, là on va faire quelques mètres, et on va passer dans les domaines seigneuriaux. Donc ça s'appelle Le Crochet, tout simplement, parce que la petite route par laquelle on arrive à l'entrée de Rochecorbon, c'est une route qui monte en zigzagant. Et à l'époque, une petite route qui monte en zigzagant, ça s'appelait un crochet. Donc c'était la maison du crochet, la maison qui était en haut du crochet. Et elle a pris le nom, Le Crochet. Alors là, il y a ici, le long du mur, là, il y a des chasse-roues. On appelle des chasse-roues. C'était pour éviter que les charrettes passent trop près des murs. Et quand elles passaient trop près des murs, le moyeu de la roue, qui était métallique, donc abîmait les murs. Donc pour éviter ça, on mettait des petits plots comme ça, ce qui fait que quand la charrette arrivait et qu'elle était un peu trop près, toc, ça la poussait, ça la chassait. Et c'est surtout, on connaissait ça à l'entrée des portails des maisons. Donc il y a toujours ces petits massifs ou des fois décorés en fonte ou autre, qui étaient pour éviter que les charrues n'abîment l'angle des piliers. Donc on les connaît surtout à l'entrée des maisons, mais des fois il pouvait y avoir ça le long des murs. La petite histoire ancienne, à l'époque où il y avait les charrues. Là, on va arriver le Grand Vaudon, qui est aussi, pareil, c'était une maison qui était essentiellement perpendiculaire. Et puis après, quand la famille va s'agrandir, eh ben, on va faire une construction en L. On va ramener le long de la rue. Mais qui, elle, le Grand Vaudon, elle est typique donc, de ces maisons du 16e, 17e. Donc là, une fois qu'on a passé la maison, quand on la regarde, donc, on voit bien... Donc la maison qui était en longueur, après donc qui va être un petit peu prolongée. Donc ça c'est une prolongation à droite, sinon la maison était perpendiculaire. On possède le terrain qui est au-dessus, donc on a la petite passerelle là-haut qui permet d'accéder depuis le toit ou depuis les combles. Et puis on possède la propriété qui est en face, donc, et eux c'est toujours eux qui sont propriétaires. Donc avec ici c'était plutôt des jardins, donc sur ces terrasses. Et puis en bas, le petit étang qui permettait d'avoir quelques poissons. Voilà, pour le Vendredi Saint ou les jours maigres. Donc toutes ces propriétés, alors là ils l'ont conservé, c'est toujours eux aussi. Alors, d'autres ça s'est revendu, puis après ça s'est construit. Alors le Grand Vaudon, alors c'est quand la maison est ouverte, quand la cour est ouverte, on voit bien le coteau. On voit bien le coteau, on voit bien la maison ici, le rez-de-chaussée, il y a une pièce. Et au-dessus, là, c'est construit sur le coteau. Donc la maison, elle fait un peu... Voilà. Il y a une pièce en bas et puis deux pièces en haut. Et on voit bien la forme du coteau et on voit bien que le coteau, là, il arrivait pratiquement au mur. Là, et puis qu'il se continuait et qu'ici, c'est bien toute la pierre qui a été rechargée pour faire la rue. après on a les caves, la maison les caves, qui s'est toujours appelée historiquement le Grand Henri, jusqu'à après-guerre, jusqu'après la Seconde Guerre. Maintenant on s'appelle les caves, où là cette fois-ci c'est vrai, on n'a qu'une façade. Toutes les pièces derrière sont creusées dans le rocher. D'ailleurs on voit sur la droite aussi, il y a une cheminée là, certainement, parce qu'en dessous la cave doit être chauffée. Donc on voit ces cheminées aussi là qui dépassent de temps en temps sur le haut du coteau et qui correspondent donc à des pièces en dessous qui sont chauffées. Mais là il n'y a que la façade et puis toujours pareil, à partir du moment où on a eu besoin de place dans la maison, ben, on va construire une petite tourelle avec un escalier devant. Après ça, c'est raménagé, après c'est... Une autre petite pièce ici, après, une autre petite propriété qui a fait beaucoup jaser à Rochecorbon, c'est l'aumônerie. Donc l'aumônerie, on a retrouvé des vieux textes de la fin du 17e où on expliquait que cette aumônerie, ou alors est-ce que c'était une aumônerie, est-ce que c'était... ces endroits où on accueillait les malades, les pestiférés, etc. Donc la légende s'est instaurée qu'il y avait ça ici à Rochecorbon, et que donc une léproserie, ou on sait pas trop, parce que c'était un texte qui parlait de ça. En fait, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. L'aumônerie, c'était juste un bâtiment, là, ici, dans la circonstance, qui était loué, et l'argent de la location était reversé à l'hospice du duc de Luynes, qui était, lui, le seigneur qui est propriétaire de Rochecorbon. Et donc, c'était simplement la location qui permettait de reverser de l'argent. Et l'argent qui était récolté par les hospices, mais aussi des fois par les monastères et autres, s'appelait l'aumônerie. Voilà. Donc l'aumône, c'était l'argent qui permettait à l'église de vivre ou à l'hôpital de vivre. Et là, la circonstance, c'est l'hôpital. Et à la fin du 17e, il y a le roi qui va un petit peu se... Louis XIV qui va un petit peu s'énerver. Pourquoi ? Bah parce que tout seigneur qui déclare détenir une aumônerie, une léproserie ou autre, bénéficie d'une subvention. Donc, qui était au départ était fait pour que les léproseries se multiplient, qu'on puisse accueillir les gens. Puis après, bon, les épidémies s'espaçant, il y en a moins. Donc il suffit de déclarer qu'on en a une, même si c'est pas vrai, on touchait à la subside tous les ans. Et comme le roi à l'époque, il s'engage dans des guerres et qu'il a besoin d'argent, il dit « je fais sauter tout ça ». Les aumôneries qui existent, on va les redistribuer un peu différemment. Par exemple ici, celle de Rochecorbon qui versait à Luynes. Bon, on dit « non, elle va verser à l'hôpital le plus proche, donc celui de Tours ». Donc il va y avoir un texte sur les léproseries, aumôneries, etc., etc., qui dit que celle de Rochecorbon est rattachée, donc, dorénavant, à celle de Tours. Mais ici, à Rochecorbon, ce n'était pas une léproserie, c'était juste une aumônerie, qui était louée à un vigneron. Donc, avec cette petite maison en longueur, et la cave au bout. Une petite maison à pans de bois. On n'a plus que deux vraiment à Rochecorbon. Donc, ce qui était quand même une construction relativement économique par rapport à de la pierre taillée, où ça coûte quand même très cher. Là, c'était de la poutre et puis après des briques de remplissage. On avait une petite briqueterie à Rochecorbon. Et donc, j'ai l'exemple à Rochecorbon, on a connu, il y avait une petite maison en bois comme ça, mais donc qui était posée au sol, hein, la structure à pan de bois. Et cette maison qui était installée à côté de l'église, qui accueillait c'était un forgeron qui était installé dedans. Et un jour, le propriétaire du terrain veut vendre le terrain. Et il demande donc au forgeron, disant, donc votre maison, elle ne peut pas rester là. Donc la maison, ils vont démonter les briques, ils vont laisser toute l'ossature en bois, ils vont monter ça sur des rondins, ils vont lui faire traverser la rue, de l'autre côté, ils vont le rassaler, ils vont remettre les briques, et voilà. Alors on a des exemples comme ça, surtout c'est en Alsace, l'histoire est très connue. Il y a un village alsacien qui a complètement déménagé, il était tellement près de l'eau, la rivière débordait souvent, que tous les habitants du village vont décider de faire ça. Donc ils vont démonter tous les remplissages entre les pans de bois, qui vont déménager leur maison un kilomètre ou deux kilomètres plus loin. Et ils vont réinstaller le village un peu plus loin. Nous, en Chambon, on n'avait qu'une maison comme ça. Donc là, l'étoile, bon, là, c'est pareil, on est toujours pareil, ce bâtiment perpendiculaire, la cave qui est derrière. Et puis au-dessus, là, c'était la maison, enfin, c'est toujours une belle maison, mais c'était la maison qui avait appartenu à Minnie Grégoire. Voilà, la fameuse qui est maintenant, dont tous les archives sont déposées aux archives départementales d'Indre-et-Loire. Et donc, elle habitait là, c'était son grand-père qui avait acheté la maison. Qu'il a vendu récemment, le jour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les grandes caves qui sont derrière sont certainement les caves dans lesquelles on a extrait les pierres qui ont servi à construire le château. Parce qu'on creusait tout près. Hein, on n'allait pas creuser, les coûts de transport étant très élevés. Donc, on creusait au plus près, et ici, c'est le plus près. C'était les caves les plus proches, et puis certaines du petit chemin là, qu'on va emprunter. Le petit sentier de la butte, où il y a aussi d'autres cas. Ici, la croix. On voit encore une croix de mission. Donc, on avait une croix de mission près de l'église. Mais on a aussi une croix de mission ici, alors qui était un calvaire. Donc, il y avait un Christ dessus, accroché. Et. Tiens, ils sont en train de nettoyer. Et Madame Minnie Grégoire l'avait pris en horreur, ce Christ. Elle trouvait qu'il n'était pas beau, que ce n'était pas un bel ouvrage. Et donc, elle s'est battue longuement pour qu'à la fin... Alors, c'était une croix en béton, avec un Christ dessus en métal. Et finalement, elle a obtenu le gain de cause. La mairie a fini par... la mairie, la paroisse, je ne sais pas exactement quel accord. Ils ont fini par l'enlever et remettre une croix de bois à la place. Plus ordinaire. On va revenir vers la Loire en passant par la petite impasse de la Butte qui est une importance, enfin pour nous une importance, c'est qu'ici on arrive sur l'ancienne voie gauloise. Donc au temps des Gaulois, donc au temps de l'oppidum qui était juste en face, là-haut sur le plateau, donc il y avait une voie gauloise qui longeait la Loire. À mi-couteau, on va dire. C'est-à-dire, en haut des éboulis, il y avait le rocher, puis il y avait des éboulis, et en haut des éboulis, il y avait cette voie gauloise qui était hors des inondations de la Loire. Et cette voie gauloise, quand elle arrivait ici, là, dans Rochecorbon, j'avais dit, elle se heurtait à cette vallée marécageuse, et donc elle était obligée de faire un crochet pour aller rejoindre l'église, où il y avait un gué qui était praticable. Donc cette voie gauloise, elle passait ici, dans ce sentier ou impasse de la Butte. Je vois qu'il y a de la contestation sur le panneau. On discute sentier ou impasse de la Butte. Je crois que c'est plutôt le sentier de la Butte. Et donc c'est une voie gauloise. Et quand on a fait le dossier sur Rochecorbon pour le classement en site patrimonial remarquable, dans le dossier c'est écrit voie gallo-romaine. Mais non, c'est pas une voie gallo-romaine, c'est une voie gauloise. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été... Bon, bien sûr, les Romains l'ont certainement emprunté, comme plein d'autres, comme les Goths, les Francs, etc. Tout le monde l'a utilisé. Mais c'est une voie qui n'a jamais été remise aux normes romaines. Donc c'est une voie qui est restée gauloise. D'ailleurs, elle est pas très large. Mais elle est située ici, donc à mi-coteau, bien protégée de toutes les inondations qu'il pouvait y avoir. Et elle fait ce petit tour qui se prolonge. Mais là, on voit, là, il y a une petite faiblesse, un petit creux. Certainement dû à la rampe de la bourdonnerie. Ça doit être des travaux de terrassement, hein, parce que généralement, quand on voit, enfin pas généralement, on voit dans les années 1860, c'est là qu'on va faire des gros travaux dans les communes sur la voirie, et on va faire ce qu'on appelle des pentes réglées. C'est-à-dire à chaque fois quand il y avait un terrain un peu plat, puis tout d'un coup une pente qui était raide, et ben hop, on recreusait pour que la pente elle soit moins accentuée. Donc on voit ici, là, on a un petit creux là, mais ça c'est quelque chose certainement qui a été recreusé. Parce que là, c'est la route ici, elle devait se continuer sur la rue Leblen. La maison de la sorcière. Ah, ça c'est moi, ça c'est ma faute. C'est quand je faisais visiter les lieux ici, il y avait une petite maisonnette. Et petite maisonnette avec toit un peu un peu toit de chaume, etc. Et ça me faisait penser à une petite maison de sorcière comme il y avait dans les bois quand on lit Andersen ou je sais pas. Voilà. Et donc à chaque fois que je passais devant, je l'appelais la maison de sorcière et j'expliquais aux gens. Et puis un jour, c'est des Allemands qui ont acheté cette petite maison. Et puis je passais, puis j'expliquais ça. Puis en fait, la maison, ils l'ont refaite complètement. Elle était refaite à neuf, toiture, etc. Et puis un jour, j'ai vu apparaître cette plaque, la maison de la sorcière. Je suis sûr, c'est moi, il n'y a que moi qui disais cette expression. Mais c'est amusant. On a loupé avant, il y avait la petite cheminée. Sur le bord du chemin, on voit une cheminée. Donc dans ce sentier de la butte, là, sur le... Donc en direction de la vallée de la Belloire, là, on voit une cheminée là. Donc il trahit qu'en dessous il y a quelque chose, une pièce, etc. Et j'ai retrouvé une bande dessinée de 1935. Donc on est dans les premières bandes dessinées en France, enfin, mais il n'y en avait quand même pas beaucoup à l'époque. Donc 1935, c'est le Haro, qui est le propriétaire du journal à l'époque, qui va devenir après la Nouvelle République, qui habitait ici, Rochecorbon, qui habitait un peu plus loin, et qui va faire une bande dessinée qui raconte la vie à Rochecorbon. Remarquable, pour l'époque, etc. Et cette bande dessinée, pour beaucoup d'exemplaires, dans un papier de très mauvaise qualité, donc pratiquement elle a disparu. J'en ai deux. Bibliothèque nationale, ils n'en ont pas. Donc un jour, il faudra que je leur donne aussi, je pense à ça. Et puis, donc il raconte quand il était gamin qu'il passait ici, là. Donc il y a un dessin. Je passe dans ce petit chemin-là, je vais en direction de la lanterne. Et là, je vois cette cheminée. Et là, cette cheminée, le plaisir, c'était de jeter dedans des cailloux. Parce qu'en dessous, il y avait la soupe qui était en train de cuire. Et donc, ça faisait plouf. S'il avait mis un couvercle au-dessus, c'était tout aussi drôle, ça faisait bing. Voilà. Et donc, le propriétaire en avait eu marre. Et puis, c'est resté. Donc ils ont toujours installé un petit grillage pour éviter justement de jeter trop de cochonneries dedans. Mais donc on retrouve ça en dessin en 1935. Ça s'appelait Les Aventures de Touto. C'est pas Tintin, c'est Touto. Bon, j'ai réédité cette bande dessinée.
Bonjour.
Qui était dans un état assez moyen. Enfin, c'était un grand format. Hein, mais... Donc je les ai numérisés, j'ai nettoyé les images, j'ai remis ça dans un format un petit peu plus petit. J'ai mis derrière chaque page de BD ce qu'était la réalité et à quel endroit ça correspond, etc. J'en ai fait un petit livre, ça se vend pas du tout. Non. Non, bande dessinée c'est pour les gamins, donc un livre d'histoire sérieux qui parle de l'intérieur d'une bande dessinée, ça marche pas du tout. Ça croise ni le... ni les personnes intéressées, les jeunes qui se dirigeraient vers des bandes dessinées, mais là c'est un livre d'histoire donc c'est pas amusant. Et puis les historiens qui disent ouais mais c'est de la bande dessinée donc c'est un peu gamin. Donc ça n'a pas rencontré son public. Voilà ce petit chemin. Là on voit le château là d'ici. Ce qui reste presque plus rien de ce château du pseudo-docteur Moron. Notre escroc. Ah, il était riche, hein, ce monsieur Moron. Il s'était marié. Son épouse, ils avaient eu un enfant. Mais ça ne s'est pas bien passé. D'ailleurs, la fille est morte très rapidement. Et puis, ils ont essayé d'avoir un deuxième enfant. Ils n'ont pas réussi. Et comme lui s'inquiétait de ça, il a décidé d'aller voir le plus grand spécialiste de l'époque. Parce que c'est quelqu'un qui visait très haut. Hein. Il fallait toujours forcément ce qu'il y avait de mieux, ce qu'il y avait de... son château, il va le faire construire par un très grand architecte parisien, Lambert. Enfin bref. Donc à l'époque, il va aller voir le grand spécialiste qui est à moitié à Paris et à Vienne. Et donc il va le voir et ce spécialiste, il dit bon, désolé, mais là, votre femme, donc je suppose qu'elle avait dû souffrir au premier accouchement, mais en tout cas, c'était pas possible. Ils n'auraient pas de deuxième enfant. Mais lui-même, ce grand gynécologue, avait eu avec une richissime américaine qui était venue se faire soigner, et elle s'était retrouvée enceinte de ce médecin, et qui lui propose, donc à Moron, dit, si vous voulez, si vous le gardez, que vous l'élevez, cet enfant, et on voudrait qu'il soit médecin, si vous le faites, on vous donne 1 million de francs or. Et 1 million de francs or, un château, le château, quand il va le construire, ça va lui coûter 400 000 francs, pour donner un peu l'ordre d'idée de la somme que ça pouvait représenter. Et lui, il donne, il dit Babanco. Donc cet enfant, il va le... pas l'adopter, il va le prendre. Et puis, effectivement, il l'amènera jusqu'au... Il sera docteur. Il sera médecin. Et donc, avec cette somme d'argent, plus ses activités de pseudo-vente, etc., enfin, de pseudo-produits pharmaceutiques là, et autres soins, et bien avec ça, il va mener la grande vie. Il va faire la fête partout. Donc là, il va se construire son propre château, avec toute sa modernité, comme indiqué, avec un chauffage à l'intérieur intégré. Par exemple, il va mettre les cheminées sont sous les fenêtres. Les cheminées sont sous les fenêtres. Et les conduits de cheminée montent dans les montants des fenêtres. Parce que ce qui fait froid dans la maison, c'est la fenêtre. Donc il faut mettre le chauffage sous la fenêtre. Comme ça, ça coupe le froid qui tombe des carreaux. Et donc il va faire ça, il va mettre l'eau, il va mettre l'électricité, etc., etc. Il aura des bateaux sur la Loire, il aura des... Enfin bon, tant et si bien que de toute façon, il va tout disperser. Et à la fin, quand il va décéder, on se demande même s'il ne s'est pas suicidé d'ailleurs, parce qu'il est surendetté, il n'arrive plus à rembourser. Ses affaires, elles ne marchent plus de vente de produits pseudo-médicaux, donc ça ne marche plus. Donc là, il va être en très très forte difficulté. Et tout ça, ça va à peu près disparaître. Mais alors l'enfant, lui, va continuer dans la famille. Et en particulier, il va grandir. Donc le Moron est toujours là, est toujours présent. Et il va s'inscrire au collège. Mais au collège, mais c'est qui ce gamin? Il y a une papier d'identité? Il y a un acte de naissance? Il y a quoi? Ben, il n'y a rien. Donc ils vont se retrouver en justice. Puis la justice dit, oui, mais bon, de toute façon, on ne sait pas. Alors lui, il dit, c'est un ami que j'avais à l'époque, je ne connais plus, qui m'a confié. Donc la justice dit, mais bon, il va bien falloir qu'on lui donne un état civil à ce pauvre gamin. Donc comme Moron, il possède un petit appartement à Paris aussi. Donc ils vont déclarer sa naissance à Paris. Donc ça va être dans les registres parisiens, sachant qu'à sa naissance, il a déjà, 14 ou 15 ans. Donc ça va être inscrit, et donc dans les registres des naissances, ça va être inscrit qu'il y a ce gamin qui est né, qui a déjà 14 ans. Et donc il restera après dans la famille. C'est une curieuse histoire. Alors ce petit chemin, là, on arrive ici, là, c'est au bout, là, on voit des petites murailles au-dessus. Alors ces murailles, elles datent de 1370. Ouais, c'est rare qu'on puisse dater ça comme ça. Mais en fait, c'est qu'en 1370, là, il y a un édit royal qui dit, c'est un petit peu même avant, mais 67, je crois, et qui dit, tous les châteaux qu'on a à la limite de la France, aux frontières de la France. Donc ces châteaux, soit ils ont une utilité et on les renforce pour qu'ils soient, qu'ils puissent mieux résister à des attaques, soit ils ne servent à rien et on les rase. Donc ça, c'était juste à la limite de la France. Et puis après, il dit, oui, bon, on va élargir ça à toutes les forteresses du territoire parce que si l'ennemi rentre, donc soit c'est une forteresse qui est protégée, soit on rase parce qu'il ne faudra pas que ça serve de point d'appui pour l'ennemi qui vient s'installer. Donc, comme ici, le seigneur de Rochecorbon est un chevalier banneret. Alors, à l'époque, c'était le top du top des chevaliers, donc très en proximité du roi. Donc, lui, il avait le droit de porter une bannière quand il allait à la guerre avec ses troupes. Donc, lui, il est très obéissant, très proche du roi. Donc il dit, OK, moi, mon château, je vais le renforcer. Donc, il faut et à la fois le protéger par des murailles supplémentaires et aussi, à l'intérieur, lui garantir une certaine autonomie. Donc à l'intérieur, on va construire un pigeonnier, on va faire des caves qui permettent de stocker, on va faire un bâtiment supplémentaire pour héberger un peu plus de personnes, etc. De telle sorte qu'à l'intérieur, on puisse tenir un siège beaucoup plus longtemps. Et parmi les protections, donc ici on est sur le flanc est du coteau, où la pente était un peu moins haute que évidemment la façade qu'on a vue qu'en bord de Loire, qui elle est très verticale et très... très bien protégé. Donc, puisqu'ici, c'était moins protégé, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des terrasses, ils vont faire du terrassement, donc des murs très hauts, une terrasse, un mur très haut, une terrasse. Donc, ça a été construit vers 1370, à quelques années près. Et donc, cette fortification-là. Et dans le même moment, ils vont aussi fortifier tout le vallon de Saint-Georges. Et ça, le vallon de Saint-Georges, ce sera une autre histoire. Voilà, sinon, ce qu'on avait quand même ici, c'est sur la gauche, là où la petite entrée peinte en blanc, là. C'était, il y avait une chapelle, là. le seigneur de Rochecorbon avait construit des chapelles avant qu'il y ait les églises. Hein, les églises paroissiales, c'est, bon, oui, on a des exemples ailleurs, dans les grandes villes au 5e, 6e siècle, ça commence. Hein. Mais nous, à la campagne, non. Hein. À la campagne ici, les églises, nos deux églises, c'est du 11e siècle. Bon, mais avant, déjà même à cette période-là, le seigneur, avant même de construction d'église, il construisait des lieux de culte, donc des petites chapelles. Et là, il y avait une petite chapelle qui s'appelait la chapelle Saint-James. Donc ça s'écrit comme James Bond, mais c'était James, parce que James, c'était la version ouest du prénom Jacques. Il y avait Jacobus, Jacomus. Donc nous aussi, c'était James, donc la chapelle Saint-James. Donc là, on est toujours sur l'ancienne voie gauloise. Et là, on va arriver, cette fois-ci, en dessous du château. Voilà, on va avancer un tout petit peu. Parce que là, c'est marqué que c'est une belle vue, mais après, elle est plus belle. Voilà, donc là, on arrive vraiment dans l'univers type de Rochecorbon. Donc là, la Loire en face. Devant, donc toutes ces terres, depuis la Loire jusqu'à ici, jusqu'au pied là, du coteau, là, jusqu'à la Révolution française, c'était des vignes. Et c'était des vignes de vin rouge. Rochecorbon, au 17e, était réputé pour son vin rouge. Pas du tout son vin blanc. Donc c'était un vin rouge qui était produit ici, sur ces vignes-là, entre le coteau vertical de bord de Loire et la Loire. Tout ça, ces vignes étaient plantées avec les vignerons qui étaient au pied du coteau. Au pied du coteau, on creusait des caves dans lesquelles on pouvait vinifier le vin. Ce qui fait que c'était très, très pratique. Il y avait les vignes, on ramassait le vin, on les amenait dans les caves, on vinifiait, on traversait les vignes, on le mettait ça sur les bateaux et ça partait. Ça, si c'était pas du cycle court. Et généralement, en plus, c'était des vins qui allaient juste à Tours, parce que c'était des propriétaires de Tours. On n'exportait pas à la région jusqu'au 18e, on n'exportait pratiquement rien. Ici, Rochecorbon. Vouvray, peut-être un peu plus. Et c'est simplement après, au 18e, quand la demande de vin va augmenter, les besoins vont augmenter, qu'ils n'ont pas assez ici sur le bord de Loire. Donc ils vont planter au-dessus sur le coteau. Le problème sur le coteau, c'est que ça, c'est des terres sur lesquelles le vin rouge ne pousse pas. Donc, le raisin noir. Et donc, on va planter du blanc. Et puis ce blanc, après, il va s'étendre, parce que ça va bien se vendre. Ça va bien se vendre, notamment à la fin du 18e, parce qu'à Rochecorbon, on va avoir plein de négociants en vin. Donc, ils vont aller vendre leur vin, cette fois-ci, à Paris ou via Nantes, vers les pays nordiques. Donc là, la production va très fortement augmenter. Donc, on va tout mettre sur le plateau. Et puis par contre en bas, le vin rouge, lui par contre il va moins bien se vendre parce que c'est pas du tout la réputation des lieux. Donc cette vigne ici va plutôt péricliter. Et puis surtout, le front ici va se construire. Et ça au 19e, la première opération, grande opération, pas touristique mais je pourrais dire immobilière, ça veut dire on va baptiser toute cette haute ici la Côte Fleurie. Et on va inciter, donc c'est surtout les propriétaires parisiens, à venir ici s'installer, à construire des maisons. Et on va trouver sur ce bord de Loire, ici, très souvent, des maisons de style bord de mer. Voilà, avec des toits qui dépassent, alors que ce n'est pas du tout le style tourangeau, etc. Parce que voilà, c'était le truc à la mode à l'époque. Donc toutes ces vignes vont disparaître, ça va plutôt être des jardins, des jardins aménagés, à la française, à l'anglaise, etc. Et ces vignes vont disparaître. Comme les vignes maintenant, elles sont au-dessus, mais que tous les pressoirs sont en dessous, donc tous vont ou utiliser des cheminées qui existent ou creuser des tunnels, de telle sorte qu'ils récoltent la vendange en haut, ils la jettent dans ce boyau qui descend jusqu'en bas dans les anciennes caves, et là on vinifie le vin. Alors ça, on en a plein d'exemples ici à Rochecorbon de ces tuyaux comme ça qui permettent d'amener la vendange du haut vers le bas. Voilà, donc ici, si on se retourne, cette fois-ci, donc là, on a la sortie d'un des souterrains du château. Là, on voit bien le bout du souterrain. Donc c'est ici, la façade s'est effondrée. Mais, donc mettant à nu ce souterrain, mais on voit le départ du souterrain haut, donc qui démarrait du château, qui permettait de venir jusqu'ici, jusqu'à l'ancienne voie gauloise, qui se poursuivait ici. Et qui permettait, c'était un des points d'accès. Puisqu'on, je pense que ce château, à partir du au 15e, il n'avait plus d'entrée. Ce château, on n'y rentrait plus que par les souterrains. Donc on en connaît deux, il y en avait deux souterrains. Il y avait un souterrain d'habitation, il y avait deux souterrains d'accès. Donc ça, c'est un des deux souterrains d'accès qui va s'écrouler. Et là, si on regarde bien, on a une particularité sur ce coteau. C'est qu'ici, on voit bien que le coteau, là, il dépasse. Là, il y a un rocher qui dépasse en surplomb. Mais en fait, ce rocher-là, au-dessus, on les devine à peine, c'est les pierres du donjon. Et ça, c'est une particularité qu'on voit bien ici sur le coteau de Rochecorbon, c'est net. C'est ce qu'on connaît sous le nom de cheminée de fée ou de demoiselle coiffée. C'est-à-dire qu'on voit des fois ça dans la nature. C'est ce rocher qui est posé, un caillou posé sur une colonne de terre ou de pierre. Et qu'on voit comme ça, il y en a pas mal dans le Vaucluse. Puis après, il y a d'autres pays. Mais... Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'à partir du moment où il y a un poids qui est posé sur le sol en dessous, on est conforté, solidifié, on va dire. Alors, c'est le poids qui donne un peu de compacité à la roche, ça protège un peu de la pluie, etc. Et qui fait que, au bout d'un moment, ben, quand il y a un sol qui se fait raviner par le vent, la pluie, etc., eh ben, l'endroit où le caillou était posé, il reste une petite colonne de terre en dessous qui le supporte. Et bien ici, on a la même chose. On a sur le coteau, on a exactement la découpe du château. C'est-à-dire le coteau, à chaque fois qu'il y a une construction en haut, le coteau est préservé. Donc où il n'y a pas de construction, ça s'écroule. Donc ça s'écroule d'un côté, ça s'écroule de l'autre côté. Mais où il y a la construction, alors il y a une pilier, ça s'est boulé, puisque maintenant l'escalier est à jour, il est aérien maintenant, mais... La partie devant s'écroulait, mais pas la partie qui était sous l'ancien donjon, qui restait. Et qu'on voit bien, là, c'est net. Et ça, on le retrouve après tout le long, et notamment un petit peu plus loin, où il y a un pigeonnier ancien. Ce pigeonnier qui était comme ça, en bord de coteau, il y a eu un énorme éboulement à sa gauche, il y a eu un gros éboulement à sa droite, mais à l'endroit où était le pigeonnier, c'est resté. Donc à chaque fois qu'il y a une construction, ça reste. Donc c'est une question qui avait été posée quand il y avait eu des travaux au château de Sens. En disant, mais si vous construisez sur le château, vous allez, sur le coteau, vous allez l'affaiblir. Surtout s'il y a des caves en dessous, etc. Non, c'est le contraire. Si vous construisez, ça solidifie. Donc on voit, voilà, là, ça c'était le bord de... Ici, un Rochecorbon, les petits panneaux, c'est cure d'air et de soleil. En été et en hiver. Voilà. Donc c'était un herboriste qui avait acheté tout un tas de maisons ici, puis qui les louait pour les touristes à la fin du 19e. Alors quand dans les années, donc quand on va arriver à 1889, il y a le tramway qui passe ici sur le quai. Et ce tramway d'ailleurs, ça va être le premier tramway de France dans lequel il y aura des compartiments de première classe. Parce que ici, on a toute une population aisée qui arrive de Paris, qui descend à la gare de Tours, qui monte dans le tramway et qui vient ici. Et qui vient dans toutes leurs propriétés qui sont tout le long du quai. Et à partir après 1900, ils vont tous faire aménager, enfin beaucoup vont faire aménager leur jardin ici, par un grand spécialiste de l'époque qui s'appelait Monsieur Decorge. Decorge, on commence à le redécouvrir à Tours, ce grand paysagiste, ce jardinier paysagiste, qui faisait, et sa grande spécialité, qu'il avait introduite ici en Indre-et-Loire, c'est ce qu'on appelle la rocaille. La rocaille, c'est tous ces structures béton qui ressemblent à du bois, qui ressemblent à des... Alors ici, on en a une très jolie. Alors on en a beaucoup aussi sur le quai, voir les épiceries terre exotique, un petit peu avant. Enfin, on va en retrouver un petit peu partout parce que Decorge va faire beaucoup de maisons ici. Alors on ne sait pas exactement lesquelles parce que ces archives ont disparu, elles sont perdues. Mais néanmoins, il suffit de regarder. Et puis le style, surtout qu'à l'époque, on connaît, il n'y avait qu'un seul rocailleur, c'était lui. Hein. Après, dans les années 40, 50, il va y en avoir un petit peu d'autres. Mais là, toutes ces constructions-là, on peut dire que ça, c'est du Decorge. Ouais, il y a même la boîte aux lettres qui est dans le trou. Et voilà. Allez, petite descente, il fallait bien puisqu'on est monté, il fallait bien qu'on descende un peu. Et on arrive dans la rue des Basses-Rivières. Donc, qui est la poursuite de donc cette... Cette rue gauloise, alors sauf que la rue gauloise continuait tout droit là, le petit sentier pour la rejoindre. Et c'est cette rue-là qui monte, qui descend, il y a des éboulements, on peut raconter plein de choses, mais là, il est midi et demi. on voit bien notre rocher du donjon. Hein. C'est elle, hein. Et puis ça a la forme, hein. Le donjon était un petit peu en travers, et le rocher il s'est un peu abîmé en travers. Où il y a la lanterne, c'est resté. Où il y a le... On ne le voit pas d'ici. Là. Si, on le voit là-bas, là. Il y a une petite construction là-haut. On voit grisé. Hein? Voilà, ça c'était un pigeonnier qui a été transformé en magnanerie pour le verre à soie. Et bien c'est pareil, c'est croulé complètement. Un énorme éboulement de 1933. Un autre éboulement là à côté qui était des années 1820. Mais l'endroit où il y a le petit machin, c'est resté. Ici, ce qu'on voit bien, c'est le coteau, c'est la roche. On voit bien la roche au-dessus, là, qui est du tuffeau, mais du gris, là, qui est très solide, qui est très résistant. Et puis par contre, le jaune en dessous, qui est très tendre. Ça déborde en casquette. La lanterne, non, elle a une partie qui est au-dessus du vide. Mais elle est posée sur un rocher très solide. Donc on n'aura pas encore d'inquiétude. Bon, la lanterne, elle finira bien par tomber, hein, comme ils disent. Mais c'est depuis le XVIIe siècle qu'on dit qu'elle va tomber. Donc voilà, donc les siècles passent quand même, elle est encore là. Bon, elle souffre, hein. Là ils vont la restaurer un peu. Mais sinon, elle reste toujours là. Là. Les premiers voyageurs, ils venaient, ils disaient « Oh, pas possible, hein, aussi bord comme ça du rocher, ça va tomber.
» La lanterne qui fera l'objet d'un prochain rendez-vous avec Claude Métavant, qui cette fois racontera à des écoliers de Rochecorbon l'histoire de leur château. Rock Body Good Radio.